Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour, rebonjour. Il est maintenant 13h et 13h, c'est l'heure à laquelle l'avion virtuel, hein, on va dire ça comme ça, l'avion virtuel de notre collègue Esther Hardy atterrit dans nos studios.
Et voilà.
Et après qu'elle ait fait le tour de la planète. Bonjour Esther.
Bonjour François. Et on commence assez loin aujourd'hui.
Oui, ben j'ai vu ce qu'il y a au menu et franchement, là, vous avez... Hein? Il ne doit plus vous rester beaucoup d'air miles. Alors, non. Voilà. Allez-y. On commence. On est à Tahiti.
À Tahiti, en Polynésie française. En fait, les personnes handicapées dans le programme de Tapura, Tapura Uiraha Tira, parce qu'on va avoir des élections bientôt. En fait, Madame Sylvia Ching Swa, qui est candidate dans la section 3 pour ce parti-là, elle connaît bien les handicapés, la problématique, parce qu'elle a déjà été nommée déléguée interministérielle du handicap il y a 5 ans.
D'accord.
Elle a décidé de franchir le pas et de se lancer maintenant en politique.
En politique. Et on établit après 17 000 personnes à Tahiti qui vivent en situation de handicap. Alors, il y a des demandes, là. C'est un peu comme un programme électoral.
Tout à fait. D'ailleurs, elle sait déjà la problématique parce qu'elle a contribué à ce qu'il y ait une augmentation de l'allocation adulte handicapé, un cumul de cette allocation avec les revenus professionnels, une gratuité des transports pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, il y a quand même beaucoup de priorités
oui,
qui est là.
Oui, tout à fait. Des choses qui sont simples, mais nous, on sait qu'elles sont essentielles, comme
voilà.
La sécurisation des parkings, l'extension des aides ou des soutiens de l'État au-delà de la majorité des gens. On parle aussi de la déconjugalisation.
Merci de
voilà,
le dire.
Comme quoi il faut rendre les personnes en situation d'handicap autonomes.
Voilà.
Alors ça, c'est les élections à Tahiti.
Voilà.
Ensuite prêt, puis ça nous fait plaisir de voir que dans d'autres parties du monde, ben c'est les mêmes problématiques, c'est les mêmes besoins.
Exactement.
Plus ça change, c'est pas parce que c'est plus loin que ce n'est pas pareil.
Mais c'est quand même plaisant de savoir qu'ils s'en occupent.
Voilà. Aux Indes maintenant.
Oui,
en Inde, devrait-on dire.
Oui, c'est très particulier, en fait, cette nouvelle-là. C'est que des femmes aveugles dépistent le cancer du sein de manière précoce. Toute cette histoire a commencé, en fait, dans les mains du docteur que je vais vous nommer tout de suite. C'est un Allemand, Frank Hoffmann, un gynécologue basé en Allemagne, d'ailleurs, c'est ça. Donc, qui a créé une sorte de projet pour faire le dépistage du cancer des seins par des personnes malvoyantes ou qui ont un déficit visuel complètement, en fait, qui sont vraiment aveugles,
voilà.
Totalement.
Parce que évidemment, comme on le sait, peut-être, et là, je veux pas faire du mythe urbain, non, il n'est pas vrai que les personnes handicapées visuelles nous entendons particulièrement bien, ou plus ceci, ou plus cela. C'est pas vrai, c'est juste qu'on est plus attentif.
Voilà.
Hein? C'est pas la même chose.
Donc, ce qu'on dit dans l'article, finalement, c'est que la majorité des médecins manquent de temps. Ils ne peuvent pas effectuer les examens de 30 à 40 minutes qui sont nécessaires pour faire la détection du cancer du sein, en fait, à chaque rencontre, là, de façon très, très minutieuse. Et ces femmes-là qui ont été formées, on dit qu'ils ont une sensibilité accrue au niveau des sens, dont le toucher, naturellement, parce que du fait qu'elles ne voient pas, ils doivent aiguiser leurs sens, comme vous dites, il y a quelques secondes.
C'est pas parce qu'on a été exposé à de la kryptonite verte, c'est juste parce qu'on sert de ce qu'on a. Mais aux Indes, c'est important parce qu'il pourrait y avoir, pour des questions culturelles ou religieuses, parfois des barrières à l'examen pour les femmes qui voudraient avoir un examen préventif du cancer du sein. Alors, de savoir que des femmes handicapées visuelles ne les voient pas se dévêtir, qu'il ne s'agit non pas d'un médecin voyant mâle, parce que ça aussi, ça pourrait freiner peut-être, le dépistage. Alors ça, c'est quand même une façon d'arriver aux fins médicales d'enrayer le cancer du sein de façon précoce aux Indes.
Mais d'ailleurs, c'est quand même très étonnant parce que ces femmes-là arrivent à détecter des masses de 10 à 20 millimètres qui sont vraiment beaucoup plus petites que, je dirais que les femmes occidentales pourraient détecter. C'est quand même très petit, là, 10 à 20 millimètres.
C'est bien, bravo.
C'est ça. C'est vraiment très particulier.
On revient un petit peu plus près, là, sur le chemin du retour, mais quand même, nous en sommes loin. Vous avez été en Ukraine. Vous êtes courageuse.
Ah oui, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs. C'est que le Forum international de réadaptation s'est déroulé à Lviv. Comment le dites-vous? Lviv, quelque chose comme ça. En fait, c'était le 12 avril dernier. Ce Forum international-là de réadaptation s'est tenu dans l'ouest de l'Ukraine. Et la veille, le centre de réhabilitation moderne Unbroken a été inauguré dans cette même ville grâce aux efforts communs. Et puis d'ailleurs, il y avait des ambassadeurs d'honneur à ce projet-là, des stars internationales, dont Sting,
ben oui.
Trudy Styler, Richard Branson et Howard Buffett pour inaugurer tout ça. Parce que c'est quand même un grand apport, là. Le centre ultra-moderne de prothèses, de chirurgie réparatrice, de rééducation et de soutien psychologique pour les victimes de la guerre.
Oui, parce qu'on le sait, c'est terrible, mais dans tous les conflits armés, une des conséquences, c'est que malheureusement, beaucoup de gens perdent l'usage de membres ou perdent des membres carrément, là. À cause de toutes les blessures, les mines antipersonnelles et toutes sortes de choses affreuses. Chaque conflit armé laisse dans son sillage beaucoup de gens qui doivent tout d'un coup composer avec des situations handicapantes. Alors que ce centre de réhabilitation Unbroken a été inauguré donc à Lviv, c'est une excellente nouvelle. On espère que ça va mettre un baume un peu sur la misère de la guerre, si on veut.
Oui, puis ceux qui se battent présentement en première ligne, sachant qu'on va prendre soin d'eux après le combat, c'est quand même un petit baume, on peut dire.
C'est fort bien. On vient de faire une étude au Connecticut.
Oui, en fait, c'est à l'université Yale qui finalement, c'est ça, aux États-Unis.
Prestigieuse.
Donc, on s'est rendu compte par ce genre de grande enquête que penser positivement au vieillissement, donc avoir une vision positive face à notre vieillissement personnel, aide à inverser le déclin cognitif. C'est quand même étonnant d'entendre ça, hein? Donc, on dit que pour vivre en bonne santé, on peut penser positif, selon une récente étude réalisée par Yale et publiée dans le JAMA Open Network, les patients atteints de troubles cognitifs légers.
Donc, ça va être comme des pertes de mémoire,
des petites choses comme celle-là.
D'accord.
Donc, dès que les personnes pensent positivement au vieillissement, ils sont plus susceptibles de récupérer leur mémoire.
Oh, c'est comme si d'envisager le vieillissement ou... ça nous amenait, selon le point de vue que l'on adopte, si on est défaitiste, puis si on pense qu'on...
Tout va toujours mal aller, de pire en pire, on
déprime, et ça, nos facultés cognitives, vont dans la même direction.
Voilà.
Alors que si on est confiant dans l'avenir, tout d'un coup, on recouvre la mémoire, façon de parler... ou au moins ne se détériore pas aussi vite.
Exactement. Et puis, en fait, cette enquête-là, cette étude-là a été faite auprès de 1716 personnes, 953 femmes, 763 hommes, qui ont tous une déficience cognitive légère qu'on appelle MCI. Donc,
Ils avaient un âge moyen quoi de...
De 77,8 ans, donc presque 80 finalement.
On va dire 78 pour arrondir.
Voilà.
Vous voulez arrondir à 80, si vous pouvez bien, là. Mais,
je suis généreuse.
On va avoir besoin de travailler sur notre perception positive.
Voilà. Donc, pour éviter la maladie d'Alzheimer, ça peut être très intéressant d'entretenir des pensées positives.
Donc, il faut être positif, il faut envisager l'avenir d'une façon, je dirais...
Optimiste, peut-être.
Oui, optimiste.
Hein?
Et non pas de se sentir écrasé. Ou condamné.
Condamné, voilà.
Parce que là, on se referme sur nous-mêmes. Notre esprit devient moins ouvert, moins
vif. C'est ça, plus hermétique à la situation.
On peut faire ça, puis jouer au Scrabble aussi.
Oui, c'est bien. En fait,
c'est très bon.
Jouer au Scrabble, c'est une façon de garder l'espoir.
Exact. Hein? Ça, c'est le bridge.
Ah oui, c'est vrai. J'avoue que je préfère le Scrabble personnellement.
Le bridge, c'est une autre affaire. maintenant... Après avoir fait ce saut brièvement au Connecticut à l'université Yale, on revient sur nos pas, on retourne en Europe.
Oui, en France, en fait. On a ici M. Victor Pierrel qui veut être le premier paraplégique à gravir le Mont Blanc.
Oh.
Le Mont Blanc est dans les Alpes.
Le premier sommet d'Europe.
Ben voilà.
Comme on l'apprend en géographie.
C'est ça. En fait, c'est un membre de l'équipe de France de ski alpin d'Andisport. Donc, il a créé ce projet-là qui est très ambitieux, on va le dire, c'est certain. Il a monté une expédition pour être le premier paraplégique à se hisser sur le toit des Alpes. C'est ça, comme vous dites, le plus haut mont. Donc, ça demande toute une logistique, 12 personnes qui doivent l'accompagner. Il y a déjà eu une première tentative, ceci dit. L'expédition avait eu lieu au printemps 2022, donc il y a environ un an. Ça leur a permis de tester cette cordée inhabituelle hein, en conditions réelles. Mais malheureusement, les conditions météo et une blessure détectée sur les membres inférieurs de Victor là, au dernier moment ont fait en sorte que, bon, ça a mis fin à ses rêves pour cette année-là.
Mais là, il se reprend, donc, voilà. Après l'échec de l'expédition de 2022, on envisage de remettre ça.
De remettre ça. En fait, ils vont être, d'après ce que je comprends, 11 pattes et 7 alpinistes.
D'accord. Parce que je suppose que pour... Que le rêve de notre ami Victor Pierrel se réalise, ben, il va falloir utiliser différents équipements. On connaît ce dont on sert parfois ici au Québec pour faire de la montagne de lundi randonnée. Hein? Il y a différentes formes de gondoles ou de brancards qui peuvent être utilisés, brancards, non, voilà.
Voilà,
ils peuvent être utilisés. Alors, je suppose que ça va être quelque chose du même type.
Probablement,
mais
j'imagine,
oui. Mais là, on parle de milieu qui est quand même hostile. Là, hein?
Oui, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est un grand défi. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler après qu'il ait réussi.
Oui, ben bravo, on va suivre ça de près. En France, toujours... il y a eu une indexation ou un rehaussement, une hausse des allocations.
Aux adultes handicapés, ce qu'ils appellent le AAH chez eux. Donc, comme d'autres aides disponibles en France, ce taux-là a été revalorisé de 1,6% le 1er avril.
Ben, moi, si je peux me permettre de le dire, 1,6%, c'est des pinottes.
Ouais, hein, c'est
parce
vrai.
Parce que si on regarde où se situe l'inflation en ce moment... pas juste ici, mais en Europe, c'est tout à fait vrai. Là, on est beaucoup plus au-dessus de 7 ou 8 % que de 1,6. Alors,
ouais, c'est vrai.
Moi, je vois ça comme une mauvaise nouvelle, savez-vous.
D'une certaine façon, vous avez tout à fait raison,
parce que
François.
Ça me dit qu'il va y avoir un appauvrissement en termes relatifs pour les adultes handicapés en France. Là, alors. Moi, si j'étais le gouvernement, je me pèterais pas les bretelles à 1,6. Ça
tout
me
à
semble
fait.
Pas être, parce qu'on, pas être à la hauteur.
On est passé, en fait, de 956 euros à 971, qui est autour de 14 euros, là, finalement.
Ben, oui, puis c'est 971, bon, évidemment, il faut savoir quel est le coût de la vie, et ainsi de suite.
Ouais,
971 euros au taux de change actuel, ça fait quoi, là, 1400 $?
À peu près. À peu près,
quelque chose comme ça. Mais moi ce qui me... tarabiscotte, là, c'est que c'est simplement 1,6 de hausse, ça me semble...
Oui, c'est minime.
Bien peu de choses.
C'est minime.
Hein?
Donc,
voilà.
on va espérer
Nous sommes bien peu de choses, dit-on, mais on peut penser aussi que l'allocation à 1,6, là...
Oui, c'est pas énorme. Donc, on va espérer que le gouvernement se ravise pour l'année prochaine, au moins.
Ben oui, tout à fait. Alors, on souhaite aux personnes en situation de handicap et à leurs proches en France de monter aux barricades.
Oui.
Voilà.
Ils sont déjà très engagés,
il faut
le dire.
Il faut se faire entendre. Tout à fait. Ben, on fait une petite pause, puis on revient au pays. De retour au Canada et beaucoup au Québec, de fait, on a toutes sortes de nouvelles, de militantisme et de consultation, et je pense que c'est très bien d'en parler. Puis, comme ça, on voit qu'on n'est pas passif devant les choses qui nous courroucent.
Oui, voilà, monsieur.
Voilà, Québec est interpellé.
Pour en faire plus, pour intégrer les travailleurs handicapés, en fait, au milieu du travail, c'est M. Stéphane Thériault, qui est le directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées, donc qu'on appelle le CQEA, qui estime que la simple indexation de l'enveloppe du programme de subvention aux entreprises, dont le budget est de 122 millions pour 2023-2024, ne permettra pas la création de nouveaux emplois pour les personnes vivant avec un handicap. Donc,
parce que, en fait, le budget a été indexé dans l'enveloppe destinée à la création ou soutien d'emploi pour personnes handicapées a été augmentée dans le dernier budget, mais augmentée simplement d'un taux d'indexation.
Oui, exactement comme les Français, ce qu'on parlait tout à l'heure,
ouais.
En fait, c'est voilà. Que normalement, les entreprises ont la possibilité d'ouvrir des postes temporaires, notamment quand survient une possibilité de développement d'affaires ou un nouveau contrat. On a habituellement la flexibilité de pouvoir embaucher, selon M. Thériault. Mais malheureusement, cette année, dans la mouture du programme qui a été présenté pour la prochaine année, cette possibilité est rayée de la carte. Le programme est gelé.
En fait, les gens qui sont employés continuent d'être employés.
Mais il n'y aura pas de nouveaux postes ouverts parce que l'enveloppe budgétaire ne le permettra pas.
Parce que ça explique entre autres cela s'explique entre autres par l'augmentation du salaire minimum.
Oui.
Et alors évidemment, ça accapare une grande partie des sommes allouées. Alors si d'une main le gouvernement augmente le salaire minimum, puis là on peut, dépendamment du point de vue, applaudir cette mesure. Cependant, en faisant ça, en fait, les personnes handicapées qui sont déjà en milieu d'emploi vont recevoir un petit peu plus d'argent pour leur travail. Leur rémunération va être plus généreuse. Généreuse n'est peut-être pas le bon terme. Va être augmentée. Mais ce n'est que cela. Donc, il n'y a pas d'autres postes créés.
Malheureusement, c'est le cas.
Et on comprend tout à fait M. Stéphane Thériault, parce qu'on l'a dit à maintes et maintes reprises à cette antenne, alors qu'on vit une situation mondiale économique de pénurie de main-d'œuvre, il y a toute une population de personnes en situation d'handicap, ailleurs, mais aussi au Québec, entre autres, prêtes à travailler, capables, formées, qui ne demandent qu'à travailler dans toutes sortes de domaines.
Et cette
ressource-là est comme laissé de côté.
Voilà, inutilisé totalement. Puis on le dit clairement, en fait, il y a des statistiques qui ont été compilées à partir des rapports annuels des entreprises adaptées qui indiquaient, en outre, que moins de 4 % des personnes handicapées admises en entreprise adaptée ont quitté leur emploi.
Les gens sont...
Ils tiennent à leur travail.
On n'est pas déconnectés, là. Si on vit en situation d'handicap puis on finit par décrocher un emploi, bien, on sait que nos probabilités ne sont pas les mêmes que les personnes valides, là. On ne se contera pas d'histoire. Et puis, pour une fois qu'on a un emploi, bien, on va le garder, puis on est heureux d'avoir une autonomie financière, heureuse d'avoir une autonomie financière. Alors, l'assiduité est plus élevée chez ce type d'employés, les personnes en situation de handicap. Et il y a plein de gens qui ne demandent que ça. Les entreprises, c'est marqué partout, nous embauchons.
Ben, mais voilà.
Embaucher.
On manque de travailleurs partout.
Encore faudrait-il que le gouvernement suive la parade et bonifie cette enveloppe-là. Surtout que le gouvernement a tenu un discours comme quoi c'était une des avenues possibles. Alors, il y a des incohérences. On espère que M. Thériault sera entendu et que les choses iront du bon côté.
Oui,
voilà.
Et que la situation soit corrigée à moyen terme, à court
et
moyen terme.
Pendant que les personnes handicapées ne trouvent pas les emplois, le gouvernement, lui, ça, il faut quand même le reconnaître, lance une consultation.
Sur la pauvreté. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 juin, une consultation publique pour établir le prochain plan de lutte à la pauvreté est organisée par le gouvernement du Québec.
Ah, donc, c'est comme aujourd'hui, là, 17.
Mais voilà.
C'est aujourd'hui que c'est lancé.
Maintenant, oui.
Vous l'avez entendu à Canal M, sans détour, avant tout le monde. Retenez bien ça.
Chantal Rouleau, en fait, qui est responsable de la solidarité, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, a fait un point de presse la semaine dernière à ce sujet-là. Donc, la consultation se faisant maintenant, on espère que ça va changer la situation.
Alors, c'est une consultation qui sera d'abord effectuée en ligne, où un sondage au sujet de la pauvreté sera accessible. Le mot « accessible » ici, soulignons-le au crayon gras. Pendant la même période, il sera aussi possible pour les organismes, entreprises, associations et tous les membres de la société civile de déposer un mémoire. Pour le mois de juin seulement, des groupes de discussion ciblant la population à faible revenu et les personnes qui se reconnaissent comme vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Hein? Alors, les personnes en situation d'handicap, là, on est dans le créneau. La consultation publique constitue une occasion de saisir et de repenser la solidarité. Alors, on remercie la ministre Rouleau d'avoir mis cette initiative en branle. on espère évidemment que tout ça aboutisse sur une politique cohérente. Qui puisse être effectivement mise en branle. Puis après ça, sur la volonté publique, politique, hein, d'ouvrir les cordons de la bourse, hein, voilà, et de débourser suffisamment d'argent pour le faire. Voilà. Tant qu'on est dans la vertu, tout le monde s'entend.
Ce sont des grands souhaits qu'on espère.
Quand la vertu doit se transformer ou aboutir en des gestes concrets, c'est parfois là où on s'enfarge. Mais enfin, on tapera pas sur le clou avant même de l'avoir posé. Nous allons espérer que tout se fasse entendre.
Alors, oui.
Cette grande consultation publique du gouvernement sur le sujet de la pauvreté, c'est maintenant. Faites-vous entendre.
Mais d'ailleurs, il y a des gens à Salaberry de Valleyfield qui, eux, se font entendre.
Oui, tout à fait, tout à fait.
En fait, c'est les résidents d'un CHSLD qui ont manifesté pour de meilleurs soins. C'est un centre d'hébergement, en fait, qui s'appelle Dr Aimé Leduc.
Oui.
Un centre d'hébergement de soins à longue durée. Donc, un CHSLD.
Ça, c'est à Salaberry de Valleyfield.
Voilà. Donc, écoutez, on a carrément manifesté sur la rue des gens qui étaient en fauteuil roulant, accompagnés d'ailleurs du personnel traitant.
Oui, tout à fait. Donc, c'est toute la communauté du CHSLD qui s'est élevée contre un manque de moyens.
Un manque de personnel, un manque de moyens, en soulignant sincèrement que... En fait, ils ont déjà de très bons soins, mais ils n'ont juste pas assez de personnel. C'est simple comme ça. Ils en ont vraiment besoin de plus.
D'accord. Quand ça vient à la fois des bénéficiaires et du personnel du CHSLD, c'est assez criant.
C'est clair.
On espère qu'ils aient eu quand même un peu une oreille attentive là, et que tout ça aboutisse. Des fois, c'est ça. Il faut prendre... en main de façon pacifique et civile, mais tout de même visible et sonore, hein, nos revendications.
Je trouve ça absolument magnifique de voir ça, moi, des gens qui manifestent comme ça.
Tout à fait, pourquoi pas.
C'est heureux.
Trisomie 21, regroupement pour la trisomie 21 qui organise une journée d'atelier d'information sur la thématique du vieillissement pour les personnes qui vivent avec une trisomie 21. Et ça, c'est important parce que c'est une réalité qui est plus nouvelle. Les personnes qui vivent avec une trisomie 21 ont malheureusement une espérance de vie qui parfois est assez courte.
Ouais.
Mais avec les soins, la science, ainsi de suite, on se retrouve maintenant dans une nouvelle problématique où on doit apprendre à vieillir, si je peux dire, avec une trisomie 21. Alors, cet atelier-là, est offert par regroupement RT21.
En fait, ça va avoir lieu le samedi 13 mai de 9h à 16h à l'hôtel universel du 5000 rue Sherbrooke-Est.
Oui.
Donc, ça peut se faire aussi en Zoom. Donc, il suffit de s'inscrire pour pouvoir y participer. Et c'est gratuit. Soulignons-le, c'est important. Il y a trois blocs. Donc, c'est un choix d'atelier, mais il y a trois blocs. Dont un premier qui parlera des ressources intermédiaires en hébergement, des milieux de vie de qualité, qui sera donné en fait par M. Jean-Philippe Lompré, directeur des services aux membres de l'ARIHQ.
Il y aura un autre bloc qui va porter sur la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Et un dernier qui parle du deuil. Parce que là aussi, quand on vieillit, les gens qui nous entourent, malheureusement, nous quittent. Puis ça, c'est une charge émotive qu'il faut peut-être... apprendre à intégrer ou à gérer. Les inscriptions, parce qu'on nous dit « dépêchez-vous ».
Oui,
voilà. Inscription, c'est à trisomie.qc.ca. C'est là que l'on va pour s'inscrire.